Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Bonjour à tous, bienvenue à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, un lieu de patrimoine, un lieu de culture où l'on peut aussi parler d'économie, du futur, de l'économie incarnée par l'intelligence artificielle. L'IA au cœur de toutes les conversations et d'un sommet international ici à Paris, co-organisé par la France et par l'Inde, une réflexion globale sur ce que l'intelligence artificielle est en train de changer dans nos vies, notre vie quotidienne, dans le monde du travail, mais aussi à l'échelle planétaire. Quelle gouvernance mondiale à l'heure d'une compétition féroce entre les grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine.
January 27th, 2025 may go down in history as DeepSeek Day.
The release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call for our industry.
DeepSeek shaking up global tech.
近日，中国人工智能初创公司 DeepSeek 发布最新模型 R1.
It is mind-blowing and it is shaking this entire industry to its core.
Concerns are growing about privacy in the Chinese AI company DeepSeek.
内地人工智能企业大型语言模型 DeepSeek 包括 OpenAI 的 ChatGPT。
DeepSeek contre ChatGPT, OpenAI, une bataille technologique, une bataille financière et le reste du monde dans tout ça. Des chercheurs, des décideurs politiques, des artistes et des chefs d'entreprise sont donc venus échanger leur point de vue et c'est ce que nous allons faire dès maintenant avec nos invités prestigieux ici à la BNF dans le studio installé spécialement par les équipes de RFI que nous remercions au passage. Bonjour Karim Beguir.
Bonjour Bruno.
Vous êtes le cofondateur et le directeur général d'Instadeep. C'est une start-up née en Tunisie. Vous êtes franco-tunisien. C'était il y a plus de 10 ans. Instadeep a parcouru beaucoup de chemin depuis, en quelques mots.
Absolument. Instadeep, c'était un projet passion. Littéralement, j'ai cofondé la société avec Zora Slim, avec 2 ordinateurs, sans financement, mais avec cette conviction.
2000 dollars, je crois.
Oui, 2000 dollars, exactement, techniquement. Et effectivement, la conviction que l'innovation en IA, en deep tech, c'était possible en Afrique. Alors depuis, on a fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, Instadeep, c'est un leader en Europe, Moyen-Orient et Afrique. 450 collaborateurs, dont 150 à Paris. On innove dans la recherche, mais aussi sur les applications pratiques.
Pour les entreprises, notamment, des systèmes d'aide à la décision, je crois.
Absolument. Donc tout ce qui est optimisation industrielle, gestion de flotte, design de circuits imprimés de manière autonome avec l'IA, notre but c'est d'innover, de faire des choses qui n'ont pas été faites.
Et puis dans la santé, puisque vous êtes allié maintenant à BioNTech, dont on a beaucoup parlé au moment du Covid. Et vous avez beaucoup d'idées, Karim Beguir, pour que les Africains s'approprient l'IA. On va en parler. À nos côtés également, Yaya Sila, bonjour.
Bonjour.
La Côte d'Ivoire, l'une des nations qui monte dans l'intelligence artificielle. Vous êtes le président directeur général de SA Analytics International. C'est une entreprise spécialisée dans l'analyse des données issues de l'IA et de l'imagerie spatiale. Les deux sont liés.
Exactement. Et les deux sont liés. Et l'usage de l'IA pour pouvoir traiter et faire parler l'imagerie.
Et donc vous appuyez sur les satellites, des satellites ivoiriens, pour, par exemple, surveiller la pêche illégale ou l'immigration clandestine.
En partenariat avec des partenaires français, et tels que Prométhée Health Intelligence ou l'agence de Montpellier, et qui sont des partenaires. Nous, ce qu'on cherche, c'est des images, et ces images pour pouvoir répondre à des problématiques africaines, ivoiriennes, et donc tels que la pêche illégale et l'orpaillage clandestin et d'autres fléaux au niveau de l'Afrique.
Et puis vous êtes l'organisateur du SIAD, le Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace, qui se tiendra à Abidjan les 20 et 21 février. Je crois qu'il y a une journée pour les professionnels et une autre pour le grand public.
Exactement. Le SIAD se veut un grand forum africain, ivoirien. Et donc, ce grand forum va voir un savoir-faire ivoirien, africain dans le monde de l'IA, de l'application de l'IA dans la défense et aussi l'application de l'IA au niveau de tout ce qui concerne l'imagerie satellitaire pour adresser des problématiques et réelles en termes d'observation de la Terre.
À tout de suite, Yaya Sylla, Éco d'ici, Éco d'ailleurs et RFI à la Bibliothèque nationale de France pour un week-end spécial intelligence artificielle. Plusieurs de nos émissions sont mobilisées. La marche du monde, tous les cinémas du monde, l'atelier des médias, musique du monde, l'IA est partout. RFI vous aide à mieux comprendre.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure.
La France est aussi au centre du jeu pendant quelques jours pour ce sommet international sur l'IA. Cela fait plusieurs années que le travail a été lancé, en particulier tout près d'ici, dans l'est de Paris, à Station F, une ancienne gare transformée en campus pour des start-up présentées parfois même comme le plus grand incubateur au monde. À sa tête, une franco-américaine d'origine iranienne, Roxane Varza, qui a fait une partie de sa carrière aux États-Unis avant de monter avec Xavier Niel, le patron de Free, ce projet fondateur. Nous avons pu la rencontrer il y a quelques jours dans un bureau de Station F. Bonjour Roxane Varza.
Bonjour.
Station F existe depuis 2017, c'est ça ?
Exact.
Je ne me trompe pas. Ça fait 8 ans maintenant que Station F existe. Comment a évolué le lieu ? Comment a évolué l'entreprise finalement que vous êtes ?
Ça fera 8 ans cet été, donc on y est presque. On a vu une énorme évolution de l'écosystème depuis notre arrivée. À l'époque où on s'est lancé, je pense que on se posait la question de est-ce qu'il y a vraiment 1000 startups en France? Est-ce qu'on va pouvoir remplir Station F? Et aujourd'hui, on voit que cet écosystème devient un écosystème parmi les premiers au niveau mondial, surtout en matière de l'intelligence artificielle, mais pas que. On a de plus en plus de levées de fonds, on a de plus en plus d'investisseurs étrangers. Donc vraiment, on voit des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a peut-être 7 ans.
Il y a de plus en plus de startups venues de l'étranger ici, que donc vous sélectionnez, dont vous évaluez la rentabilité. Comment ça a évolué aussi ?
Donc en effet, depuis le début, on est très international à Station F. On a l'année dernière annoncé qu'il y a 65 nationalités qui sont représentées ici. Et parmi les pays les mieux représentés sur le campus, on va trouver les États-Unis juste derrière la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Maroc et Corée du Sud. Donc c'est pas que nos voisins. C'est un écosystème qui est extrêmement attirant pour plein d'autres pays et aussi parce que les écosystèmes traditionnels, la Silicon Valley, New York, Londres, avec les situations géopolitiques qui changent beaucoup, deviennent aussi parfois moins attractifs. Et donc la France, dans ces cas-là, peut attirer de plus en plus de startups. Mais pour nous, en termes de sélection, on va pas forcément aller chasser des startups nous-mêmes. Il y en a beaucoup qui viennent vers nous, mais parfois aussi, on va aller demander et chercher des startups qu'on aime pour venir ici. Et les critères qu'on regarde, on est sur des startups vraiment au démarrage. Donc, on va regarder un premier prototype, un peu d'usage, des équipes qui sont évidemment à temps plein sur des sujets. Et ça, c'est des critères qui n'ont pas trop changé, mais c'est surtout les sujets qui ont changé depuis le début.
Alors, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une tension très claire sur le financement de ces startups en France et ailleurs, hein, partout dans le monde, avec une chasse aux levées de fonds. Certains disent même une guerre des levées de fonds. Est-ce que ça préoccupe les entreprises qui sont autour de vous ?
C'est marrant parce que c'est des choses que nous, on connaît et qui sont dites chaque année dans l'écosystème. Il y a toujours une guerre pour les levées de fonds. Peut-être les années 2021, 2022, juste après le Covid, les startups pouvaient lever beaucoup plus facilement, rapidement. Et ça, c'est moins le cas aujourd'hui. Puis, on a eu peut-être une période avec l'intelligence artificielle où c'était plus rapide aussi. Et là, ça commence à se calmer avec...
Il y a des investisseurs qui commencent à émettre des doutes aussi sur la rentabilité des entreprises
Exactement.
De l'IA.
Exactement. Ça, c'est pas récent d'ailleurs. Ça avait commencé l'année dernière en été avec des rapports de Goldman Sachs qui avaient questionné un petit peu la rentabilité de ces levées de fonds. Mais en effet, aujourd'hui, il y a des doutes, il y a des questionnements, mais je pense que dans cet écosystème, on voit toujours une espèce d'optimisme. Et on veut toujours faire émerger des nouveaux modèles, des nouveaux projets, des nouvelles technos finalement. Donc les levées de fonds continuent et vont continuer. Donc ça ne changera pas.
Alors, on est dans une concurrence mondiale avec des investissements massifs annoncés là vraiment très récemment, hein, ces dernières semaines ou ces derniers mois.
aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, en Chine aussi, en Inde également. Comment vous vous placez? Comment la France et l'Europe se placent dans ce concert-là?
Bon, c'est vrai qu'on peut voir des annonces de plusieurs milliards aux US. Et puis,
plus que plusieurs milliards, c'est plusieurs centaines de milliards.
Plusieurs centaines de milliards, en effet. Après, il faut se demander est-ce que cet argent est vraiment là ou pas. Et puis, il y a des acteurs en Chine qui utilisent beaucoup moins de moyens pour avoir les mêmes résultats. Donc, en vrai, on voit deux extrêmes qui sont en train d'émerger. Et en France, c'est pas comme si on n'avait pas d'acteurs qui pourraient aussi prendre la place. Enfin, discrètement, Mistral a aussi annoncé un nouveau modèle qui semble être extrêmement performant. Enfin, c'est super d'avoir aussi des acteurs qui sont vraiment dans la course basés ici en France et en Europe. Donc, il ne faut pas du tout se dire que non, ça se passe ailleurs, ça ne se passe pas chez nous. Ce n'est pas le cas. Et puis, je pense aussi notre écosystème en Europe pour tout ce qui est intelligence artificielle, c'est vraiment l'écosystème le plus fort en termes de talent, en termes d'investissement et en termes de ressources. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas des choses émerger prochainement chez nous.
Ça veut dire aussi qu'il faut aller chercher des alliances ailleurs dans le monde. Alors, il y a les grands pays, les méga pays, les États-Unis, la Chine, l'Inde, mais il y a d'autres puissances émergentes. On pense par exemple au continent africain où il y a un écosystème qui est en train de se créer. Vous parliez du Maroc tout à l'heure.
Oui. En fait, il y a des pays partout, en vrai, des entreprises partout qui font des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas du tout imaginer que c'est limité entre quelques pays. En revanche, c'est des écosystèmes que je connais moins bien, donc je ne pourrais pas commenter dans le détail. Mais on voit vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce sujet, beaucoup de moyens mis. Et les investisseurs, les meilleurs investisseurs, ils ne sont pas du tout en train de se concentrer dans certains endroits. Ils regardent vraiment le monde entier.
Roxane Varzal, la place des femmes dans cet écosystème de l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a structurellement du retard hein, dans tous les métiers de la tech, même si le retard commence à être rattrapé. Est-ce que ça change? Est-ce que ça s'accélère encore plus vite avec l'IA?
Moi, je suis très optimiste. Je l'ai toujours été, même si les femmes sont toujours une minorité dans le milieu tech et aussi dans le milieu de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a en tout cas un discours aujourd'hui, une conscience. Donc, on veut soutenir et faire émerger plus de femmes leaders dans ce milieu. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Et il y en a. Je pense que juste parfois, elles sont moins visibles, moins entendues. Mais elles existent. Et c'est quelque chose où on commence à voir de plus en plus de moyens et d'attention qui se sont consacrés à ce sujet, en tout cas.
Parce que là, pour l'instant, dans les big boss, qu'ils soient américains, européens ou chinois, on ne voit que des hommes. Est-ce qu'il manque une tête d'affiche?
On voit que des hommes, mais il y a des femmes. Je pense par exemple à Fiji Simo, qui est à la tête d'Instacart, une française de la Silicon Valley, aussi dans le conseil d'administration de OpenAI. Je pense à Eleonore Crespo, la fondatrice de Pigment, première licorne française fondée par une femme. Je pense à Fei Li, chercheur qui est très connu. Il y en a. C'est juste qu'on n'en parle pas assez.
Merci Roxane Varzal.
Merci beaucoup.
La France et l'Europe dans la compétition mondiale de l'intelligence artificielle, nous dit Roxane Varzal, directrice de Station F, qui accueille donc des startups du monde entier. L'IA sans frontières, la preuve avec nos invités dans une toute petite minute. Juste après, Jean-Michel Jarre, un des pionniers de la musique électronique en France, aujourd'hui à fond sur l'IA. Il participe d'ailleurs à l'événement de ce week-end à la BNF. Voici une collaboration avec les Pet Shop Boys, c'était il y a quelques années, Brick England.
They built the mountain, then they
Break England, c'était Jean-Michel Jarre et les Pet Shop Boys dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous sommes à la Bibliothèque Nationale de France, journée spéciale IA sur RFI, et revoici nos invités, Karim Beguir, le patron d'Instadip, et Yaya Silla, président, directeur général de SA Analytics International, basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Karim Beguir, avant de dévoiler vos pistes pour que l'Afrique soit bel et bien dans la course, quelques mots sur vos projets du moment. Vous qui êtes basé désormais à Londres, vous lancez Kyber, K-Y-B-E-R. C'est un super calculateur de nouvelle génération. Expliquez-nous en quelques petits mots.
Absolument. Donc à Instadip, on a une spécificité qui est qu'on a notre propre cluster. La plupart des startups, en fait, utilisent que le cloud. Bien entendu, nous avons des partenariats cloud, mais nous avons aussi notre propre supercalculateur. Et ça date de déjà de plusieurs années, en fait, Bruno. En 2017, nous avions acheté notre premier système DGX, NVIDIA. Et petit à petit, on a appris à les utiliser. Et aujourd'hui, avec Kyber, qu'on installe dans la région parisienne, hein, donc c'est un investissement qui va nous permettre d'innover et de développer des modèles de type nouveau, que ce soit dans les sciences de la vie ou dans les systèmes d'optimisation complexes. Donc on est ravis d'investir dans l'écosystème parisien auquel on croit beaucoup et continuer à développer nos capacités en termes de calcul. Kyber aujourd'hui, c'est dans le top 150 des supercalculateurs GPU du monde.
Vous avez lancé ça grâce à une levée de fonds, grâce à des investisseurs ou grâce à des fonds propres ou grâce à BioNTech?
Donc, sur fonds propres, en fait, on avait fait une levée de 100 millions de dollars avant l'acquisition par BioNTech. Donc, on a les moyens de financer nous-mêmes ces opérations-là. Et de manière importante, ça permet d'accélérer l'innovation, mais aussi de rentabiliser le déploiement en termes de calcul par rapport à d'autres options. Aujourd'hui, la puissance de calcul, c'est le nerf de la guerre en IA, donc quelque chose d'extrêmement important.
Puisque l'on parle de BioNTech, la santé, une application précise que tout le monde peut comprendre?
Donc aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que sur les systèmes médicaux, vous pouvez comprendre, par exemple, l'ADN d'une manière qui était impossible. Aujourd'hui, l'ADN, vous avez de l'ordre de 1,5% de l'ADN qui est codé en protéines. Le reste, c'était un mystère. On appelait ça même junk DNA, l'ADN poubelle. Mais en fait, avec les nouveaux types de modèles, dont Nucleotide Transformer, qu'on a développé à Instadip, qui est aujourd'hui un des plus populaires au monde, avec presque 1 million de downloads sur Hugging Face, vous pouvez comprendre de manière précise les spécificités de chaque individu. Et donc, ça ouvre la porte à des médecines personnalisées, donc plus efficaces.
Des médecines davantage encore à distance que ce qui existe aujourd'hui. On pense par exemple au continent africain où certaines zones sont parfois difficiles d'accès.
Absolument. Et ça, donc au niveau des diagnostics médicaux, je pense que c'est une révolution extraordinaire ce qui se passe en IA. L'OMS estime qu'on va avoir un manque de l'ordre de 10 millions de médecins à l'horizon 2030. Et l'IA, ça permet d'être un partenaire de diagnostic pour des médecins qui ne sont pas forcément sur place. Déjà, sur des détections de cancer du sein, on arrive à détecter entre 15 et 25% de vrais positifs supplémentaires sans faire de plus d'erreurs en termes de négatifs. C'est extraordinaire.
Yaya Silla, un commentaire sur ce que vient de dire Karim Beguir. Oui. On imagine que ça vous intéresse.
Absolument, ça nous intéresse et nous sommes déjà dedans, étant dans l'imagerie. Et donc, je suis d'accord avec Karim. Dans l'imagerie, par exemple, au niveau de la cancérologie, l'IA est un outil accompagnateur du médecin pour justement avoir des yeux plus grands. Et donc, je m'explique, avoir des yeux plus grands, je veux dire, par exemple, lorsque j'ai des clichés d'imagerie sur plusieurs temps, dans le temps, donc à partir de là, je peux même, le médecin peut prédire une maladie qui va venir et aussi, surtout dans le cadre de tout ce qui concerne le cancer du sein et certaines pathologies telles que le lymphome, par exemple, on peut faire des analyses sanguines sur une période donnée et tout de suite prévoir et adapter le traitement. Et ça, c'est déjà fait en Côte d'Ivoire.
Et vous pensez qu'on peut faire baisser les coûts de la médecine en Afrique subsaharienne grâce à ça? Quel est le delta potentiel?
Absolument. Avec la télémédecine, c'est ce qu'on recommande. Et l'un des problèmes qui va se poser, c'est tout ce qui concerne la couverture en termes de connectivité. Et parce que en Afrique, même ici, parce que moi j'habite dans un petit village dans la Seine-et-Marne, et elle était dans une zone blanche. Et donc l'idée maintenant, c'est de trouver des solutions intelligentes permettant de pouvoir proposer la connectivité et ses solutions. Et depuis mon village à Thiémé, au nord de la Côte d'Ivoire, et des patients peuvent être diagnostiqués et directement les médecins étant à Abidjan vont faire l'analyse. Et c'est ça la révolution de l'IA.
Des marchés potentiels. Karim Beguir, au-delà de vos propres activités, vous avez des idées pour développer l'économie en Afrique via la technologie. Vous avez imaginé un plan qui est dans un livre d'ailleurs qui va sortir dans quelques semaines, qui sera disponible pour le grand public. Un plan qui s'articule autour de trois axes. L'IA, l'innovation bien sûr, mais aussi l'énergie, l'approvisionnement énergétique et puis la monnaie, les monnaies numériques. Expliquez-nous simplement de quoi il s'agit.
Absolument. En fait, mon expérience en développant Instadip, en partant de très peu de moyens et en développant grâce à l'innovation, mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, Bruno, c'est que très souvent, les experts sous-estiment la vitesse de ces transformations. C'est le cas en IA. Aujourd'hui, nous allons atteindre des performances qui se rapprochent ou qui sont équivalentes à celles des performances humaines beaucoup plus vite que ce que pensaient les experts. Donc c'est une révolution et même les chercheurs les plus en pointe dans le domaine se sont trompés. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que je suis passionné par ces thématiques, c'est mon travail. Et en fait, en creusant un peu plus, je me suis rendu compte que c'était aussi vrai dans le domaine de l'énergie renouvelable. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie ont constamment sous-estimé le potentiel de l'énergie du solaire, par exemple, de l'éolien. Et le solaire, c'est quelque chose de fantastique. C'est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique, le continent de loin qui a le plus fort taux d'ensoleillement. Et enfin, la même chose sur les monnaies digitales, dont spécifiquement le Bitcoin, qui est en train d'émerger comme l'étalon or. Alors, quelle est l'opportunité ? L'opportunité, en fait, c'est que si on combine ces trois grandes vagues exponentielles qui ont chacune atteint le point de non-retour, je dirais aujourd'hui, dans le sens où elles vont continuer à se développer. L'énergie renouvelable aujourd'hui est moins chère que le pétrole, le charbon et le gaz. C'est quand même extraordinaire. Pareil sur le Bitcoin, on a atteint des niveaux d'adoption qui sont ceux d'Internet en 1999. Donc l'effet réseau a pris et c'est une opportunité pour l'Afrique. Et enfin sur l'IA, aujourd'hui, les cas d'usage sont en train de se démultiplier. On a parlé de la santé. C'est le cas dans l'éducation. Moi, je suis passionné par les cas d'usage éducatifs en Afrique. Vous pouvez avoir des systèmes d'IA extrêmement patients, extrêmement précis, qui accompagnent des élèves et leur permettent de progresser beaucoup plus vite. Et donc, si on combine ces trois révolutions, en fait, on se rend compte qu'il y a un nouveau modèle possible pour l'Afrique qui ne nécessite pas de financement, en fait. C'est un investissement simultané.
Pas de financement public, vous voulez dire ?
Absolument.
C'est-à-dire qu'on peut autofinancer l'IA.
Uniquement du privé. Les États offrent des franchises d'impôts pendant un certain nombre d'années. C'est facile pour eux, ça ne leur coûte rien parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Et donc, le privé, s'il investit simultanément dans des data centers, des puissances de calcul, et on pourra parler de la puissance de calcul, c'est l'élément le plus important de la compétitivité IA aujourd'hui. Et en même temps, des systèmes de production d'énergie renouvelable, fermes solaires, éoliennes, géothermales, etc. Et enfin, dans l'infrastructure de minage du Bitcoin qui permet de monétiser l'énergie renouvelable, et donc c'est un outil, en fait, les trois ensemble, ça permet d'avoir des projets qui sont rentables deux fois plus vite, de l'ordre de 4-5 ans au lieu de 7-8 ans, et donc c'est révolutionnaire.
Avant de parler des questions de souveraineté, un commentaire, Yaya Sila, sur ce qu'on vient d'entendre. L'imbrication des trois grands mouvements actuels.
Absolument, l'imbrication et surtout le côté formation. Ok, je vais faire un petit zoom. Et pour vous dire, nous sommes en train de faire un test aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans trois zones du Nord, qui est Ferkessédougou, Sinématali et Boundiali. Et des tests avec l'usage de la robotique et l'IA embarquée dès le préscolaire. Et donc, c'est en train de prendre une dimension très, très importante. Et là, je suis un passionné. Et donc, je comprends là comment les enfants peuvent avoir de l'imagination. L'apprentissage, elle est ouvert à partir de cet âge. Et donc, dans 25 ans, vous allez comprendre qu'en facilitant cela aujourd'hui, dans 25 ans, c'est eux qui seront les maîtres du monde.
Absolument. Oui, et je suis tout à fait d'accord, Yaya. Et un point qui est extraordinaire, et c'est que non seulement on doit apprendre aux jeunes à programmer, à développer leur compréhension de la science, des technologies, mais un point qui est extrêmement important pour l'avenir, c'est de leur apprendre à utiliser les agents IA. En fait, l'avenir, c'est une collaboration entre hommes et machines, et donc un enjeu fondamental du développement de l'Afrique, c'est de créer des sociétés, des équipes très agiles de 5-10 jeunes extrêmement motivés qui travaillent avec des centaines d'agents digitaux IA très performants et qui, du coup, avec une équipe de 5-10 personnes, peut avoir la productivité d'une société normale qui aurait 300-400 personnes. Et donc ça, c'est quelque chose duquel je suis passionné. Avec quelques amis, on a lancé Projet Tatooine.
C'est finalement supprimer des emplois pour en créer d'autres grâce à la rentabilité.
Non, je ne dirais pas supprimer. C'est vraiment une création nette de richesse. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Le potentiel est absolument extraordinaire. Et donc, voilà, je voulais mentionner un projet qu'on a appelé Projet Tatooine de Star Wars, la ville et le désert de Star Wars, et où, en fait, on apprend à des jeunes à utiliser l'IA pour programmer et à développer leur projet. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, à mon sens, si on réussit ça, plus les investissements en infrastructure, l'Afrique peut décoller d'elle-même.
Le pouvoir de la force dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Absolument.
Qui le crée. Allez-y, Yassila, rapidement.
Et aujourd'hui, avec le déficit énergétique qu'on constate en Afrique, et l'énergie solaire, et surtout les énergies renouvelables, pour être un peu plus large, et couplé avec l'IA, est une chance pour l'Afrique. Et donc, je pense que ça va faciliter justement l'usage des besoins énergétiques en termes de mise en place des data centers, des centres de calcul. Et c'est ce que SA Analytique International a fait dès 2019 en mettant en place un calculateur avancé pour justement permettre de pouvoir mettre en œuvre facilement des IA et qu'on puisse utiliser dans le domaine de la santé, de l'agriculture et surtout au niveau des activités courantes.
Alors derrière tout ça, il y a pas mal de questions de financement et d'infrastructures. Pour l'instant, l'Afrique reste encore en retrait par rapport au reste du monde. Seulement quelques dizaines de data centers sur l'ensemble du continent, je crois, sur les milliers qui existent dans le monde. Il y a de l'ambition, il faut quand même résoudre quelques problèmes. Écoutez ce qu'en dit Luc Missidimbazi, il est ingénieur au Congo-Brazzaville.
Tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes de base d'énergie pour les data centers, ça nous coûtera tellement cher que le produit au finish coûtera cher aux utilisateurs. Et si vous avez un data center qui a des coûts de plus de 10, 20, 30, 40 fois plus cher que l'Europe, vous aurez toujours l'obligation d'avoir vos données à l'étranger. Ce n'est pas la localisation des données le problème, même si on préfère qu'elles soient chez nous, mais c'est l'accès à ces données et c'est là où l'authentification, l'identification sont fondamentales. Et cette authentification passe par des instruments, par des équipements, par des technologies, par des programmes, par un cryptage. Et ce sont ce renforcement-là, c'est ces choses qu'il faut comprendre pour pouvoir disposer d'une totale gestion de son écosystème digital, ce qui n'est pas le cas, je pense, pour beaucoup de pays africains.
Des propos recueillis par Claire Fage du service économie de RFI. Karim Beguir, les infrastructures et l'accès aux données. Là, il y avait pas mal de choses dans ce qu'a dit notre ingénieur du Congo-Brazzaville.
Absolument, et je dirais l'infrastructure, la puissance de calcul, c'est en fait extrêmement important. La vraie fracture digitale, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, l'Afrique a moins de 0,1% des GPUs de la planète.
Et ceci, GPUs,
oui, GPUs, les calculateurs en fait spécialisés qui étaient à la base graphique, mais qui sont utilisés aujourd'hui pour l'IA. Donc, en termes de puissance de calcul IA, l'Afrique a moins de 0,1% de la capacité mondiale. Et ça doit changer. Et pourquoi, Bruno? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vu que l'IA devient extrêmement compétente, la puissance de calcul, ça permet littéralement de créer ces agents, ces collègues digitaux dont on parlait auparavant. Donc un data center en Afrique, imaginez que c'est une cité de génies qui sont disponibles pour vous, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et plus l'IA devient compétente, et plus la puissance de calcul va être essentielle. Si on voit par exemple Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour, il disait dans l'économie du savoir, la seule chose qui compte, c'est d'avoir des jeunes extrêmement motivés, extrêmement bien formés. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est absolument vrai, mais il faut rajouter aussi les moyens de calcul pour permettre à ces jeunes de développer les richesses de demain.
Yaya Sila, les moyens de calcul et le coût de tout ça aussi, pour que ça soit accessible dans un temps assez restreint, pour ne pas perdre trop de temps dans la course.
Je pense que là, il faut être un peu, je veux dire, mitigé. Moi, je suis un peu mitigé parce qu'il faut combattre une idée reçue. C'est-à-dire qu'investir en Afrique, pour moi, est moins cher. Ce n'est pas forcément plus cher qu'investir en Occident. Parce que, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Nous avons une croissance très, très forte et investir est moins risqué. Comme le sous-tend pas mal d'experts dans le domaine financier. Et aussi, notre marché, elle est énorme. Et donc, pour vous rejoindre, et il faut une prise de conscience pour dire au niveau de la digitalisation que mettre en place la formation, comme Karim était en train de le dire, et nous, on a commencé ça déjà, couplé avec des investissements PPP, c'est-à-dire on a
public-privé,
et va permettre d'accélérer le processus de mise en œuvre de data center. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de faire par la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu la naissance de plusieurs data centers ces derniers mois. Et ce qui, moi, me réjouit. Et en tant que passionné de ce monde d'IA, Et nous allons proposer plus d'agilité, plus de créativité à nos jeunes en termes d'usage de l'IA.
Avec des petites entreprises, Karim Beguir disait quand même l'idée c'est de se passer des financements publics. Vous dites il faut quand même s'appuyer sur les partenariats avec l'État.
Public-privé, puisqu'on a besoin du privé par rapport aux taxes, à des facilités d'investissement. Et donc c'est pour cela des mécanismes publics-privés, à mon sens, beaucoup d'intérêt et peut accélérer le processus d'investissement.
Karim Beguir. Absolument. Et si simplement les gouvernements offrent une politique fiscale et taxe incitative, c'est-à-dire par exemple une franchise d'impôt pendant 5-10 ans sur ces projets, ça suffira. Et ce qui est formidable, c'est pour revenir au point que Yaya a mentionné aujourd'hui, en fait, un data center en Afrique, ça peut être un atout fantastique pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Vous avez des coûts de fonctionnement et un coût en termes d'électricité qui peut être extrêmement compétitif. Je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, par exemple, des fermes solaires dans l'Afrique du Nord ou en Namibie, vous pouvez avoir des taux au kilowattheure, des coûts de production au kilowattheure de moins de 5 cents, peut-être dans certains cas de 2,5, 3 cents de dollars. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc cette compétitivité-là, c'est une chance pour l'Afrique, c'est une chance pour l'Europe. Et je suis tout à fait d'accord, il faut voir ces opportunités-là comme une chance et changer, ne pas être dans une mentalité d'aide, être dans une mentalité d'opportunité et de développement.
Alors justement, les alliances, j'allais y venir, les questions de souveraineté aussi qui sont derrière, forcément les États-Unis ne vont pas se laisser faire, surtout pas Donald Trump qui a annoncé un investissement massif avec le programme Stargate.
Les plus grands géants mondiaux de la tech annoncent la création de Stargate. Retenez bien ce nom, car vous allez en entendre parler. C'est une nouvelle entreprise américaine qui va investir au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Et ça va aller très très vite. On parle de plus de 100 000 emplois créés presque immédiatement. L'objectif est clair, façonner l'avenir de la technologie et faire en sorte que ça reste en Amérique. La Chine et d'autres pays sont des concurrents, mais nous voulons que cette avancée soit ici, chez nous et accessible.
Karim Beguir, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça ne va pas forcément être facile de pénétrer le marché américain maintenant.
Oui, donc...
Il y a une forteresse là qui est en train de se
Oui, c'est une
créer.
Forteresse. Pour moi, c'est ces investissements colossaux. Donc, il y a eu le projet Stargate, effectivement, d'OpenAI, des annonces similaires de la part de Google qui double son budget en infrastructure IA, Amazon très récemment aussi. Donc, ça, pour moi, ça me dit quelque chose. Ça me dit qu'en fait, tous ces géants ont compris que on va atteindre des niveaux d'intelligence artificielle en termes de compétences qui vont être équivalents à ceux des personnes humaines. Mm-hmm. Sinon, ils n'investiraient pas autant. Mm-hmm. Et donc, c'est un vrai défi. Les États-Unis sont déjà à la course à la super-intelligence. Mm-hmm. Donc, dépasser l'intelligence artificielle générale de niveau d'une personne humaine, c'est déjà la course à l'étape d'après. Mm-hmm. Et donc, c'est extrêmement important que l'Europe et l'Afrique investissent dans leurs capacités en infrastructure. Et c'est là où les opportunités...
Et le Moyen-Orient, on voit que la France, absolument, la France et les Émirats mm-hmm. arabes unis sont liés maintenant. Mm-hmm. Les Émirats vont investir plusieurs dizaines de milliards en France.
Absolument. Et je pense que des opportunités extraordinaires existent. La France est un leader, notamment dans l'énergie nucléaire. Et ça, c'est une énergie décarbonée qui peut soutenir des data centers en France. On a mentionné le cas des fermes solaires à très grande échelle qui peuvent offrir des coûts d'électricité parmi les moins chers du monde. À mon avis, c'est comme ça qu'on peut rester dans la course face aux États-Unis et à la Chine. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que tout ça se passe beaucoup plus vite que prévu. Et donc, il faut être extrêmement volontariste. Les opportunités existent. Une création de richesse exponentielle est devant nous. Et c'est toute une question de coordination. Donc voilà, on a le sommet sur l'IA qui arrive. Ça sera l'occasion d'en parler.
Yassila, vous qui êtes aussi un pont entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et l'Afrique, comment vous voyez cette nouvelle configuration mondiale autour de l'IA ?
Mais moi, je dirais que c'est une chance pour le Sud. C'est pour cela, moi, je parle de coopération Sud-Nord. Parce qu'avant, on parlait de coopération Nord-Sud. Pourquoi ? Je parle de coopération Sud-Nord. L'Afrique a un potentiel énorme, c'est sa démographie, c'est les jeunes. Aujourd'hui, imaginez-vous l'usage de la téléphonie, créatrice de données, de data. Et donc, c'est un terreau propice à l'usage et à l'expérimentation de l'IA.
L'IA est gourmande, elle a besoin de données. Et certains disent qu'on est peut-être arrivé à une sorte de saturation, enfin qu'on est arrivé
tout à fait.
Peut-être pas totalement au bout des données, mais enfin en tout cas qu'on en a besoin davantage.
Et c'est le lieu propice à l'innovation. Pourquoi c'est le lieu propice à l'innovation ? Dans la mesure où j'ai les données, j'ai les ingénieurs formés, l'équipe formée pour prototyper, j'ai des contraintes moindres en termes de régulation. C'est ce qui a fait la poussée de la Chine. Et donc, quand je tiens compte de tout ça, l'Afrique, elle a la chance. Elle va profiter de tout ça parce qu'il y a moins de régulation. Parce qu'avant, il faut la régulation, bien sûr, mais moins de régulation, la régulation tue l'innovation. Donc pour moi, ça c'est mon point de vue. Donc la donnée, les jeunes vont créer beaucoup, beaucoup de données. Et là, c'est la zone propice à mettre en place des applications IA à l'usage des Africains. Donc je dirais que ces investissements colossaux, tant aux États-Unis, en Europe, avec le Moyen-Orient et la Chine, est un avantage pour l'Afrique parce que finalement, la démographie qui est là aujourd'hui permet justement de pouvoir niveler tout ça.
La régulation, un mot très européen, Karim Beguila.
Oui, non, absolument. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la régulation en Europe. Par exemple, certains modèles très avancés ne sont pas toujours disponibles. Et c'est une question difficile. Il faut trouver le juste compromis entre la confidentialité des données personnelles et aussi la capacité de déployer ces modèles qui apportent beaucoup de richesse. Je voulais ajouter un point en fait, qui je pense est important. L'Afrique peut vraiment bénéficier de cette compétition entre la Chine et les États-Unis. On a vu avec l'annonce de DeepSeek, modèle qui est aujourd'hui le modèle le plus performant open source. C'est pas le meilleur modèle du monde, mais c'est le meilleur en open source. Et ça, c'est une chance extraordinaire pour nos jeunes talents en Afrique, en Europe, pour pouvoir développer très rapidement des cas d'usage performants sans avoir eu à dépenser des millions, des dizaines, des centaines de millions de dollars pour développer. Et donc, le mouvement open source, c'est une chance pour l'Afrique. J'en sais quelque chose parce qu'à Instadip, on en a bénéficié. Et plus tard, nous sommes devenus, en fait, un contributeur à l'open source. Nos meilleurs modèles sont open sourcés. Et donc, cette dynamique positive, c'est une chance de plus pour créer des richesses formidables entre l'Afrique et l'Europe. Et effectivement, avoir une un partenariat gagnant-gagnant où chaque partenaire contribue.
Karim Béguir, merci infiniment d'être passé dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, ici à la Bibliothèque nationale de France.
Émission spéciale Intelligence artificielle en direct de la BNF. Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Encore quelques minutes avec vous, Yaya Sila, SA Analytics, la Côte d'Ivoire, l'importance de la formation, on l'a dit il y a quelques minutes, l'intégration des jeunes dans ce mouvement vers l'intelligence artificielle, et c'est d'ailleurs l'objet de partenariats avec les pays du Nord. On ne peut pas compter que sur son propre pays quand on parle de formation aujourd'hui.
Pour la formation, aujourd'hui, c'est... La situation actuelle est une chance pour l'Afrique en termes de formation. Et le déficit démographique en Occident pousse les établissements de formation, les écoles, tous les établissements de formation à continuer à se maintenir. Sinon, ils vont disparaître. Donc pour cela, où ils vont chercher ? Ils vont bien sûr aller chercher là où la démographie existe, donc en Afrique. Donc c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui des vagues d'écoles de formation à Dakar, à Abidjan, dans les grandes capitales africaines. Et ça va continuer à monter. Et parce que l'Afrique serait le centre de formation par excellence. Et donc la formation, c'est la clé. Et d'ailleurs, le pays qui est la Côte d'Ivoire en a pris conscience. Et je participe personnellement à des programmes de formation, et les grandes écoles, et les écoles.
C'est le rôle des chefs d'entreprise.
Absolument. C'est le rôle des chefs d'entreprise d'accompagner ce processus. Et donc, nous, SA Analytics, nous sommes impliqués dans ce programme de formation. C'est pour cela, d'ailleurs, avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, on initie une formation dès le préscolaire, la formation à l'IA, la robotique et l'intelligence artificielle. Et pour ne pas m'arrêter là, d'ailleurs, vous allez voir lors du salon des signatures de conventions entre le centre de formation et le centre spatial de Montpellier, et on va signer une convention, c'est sur la formation en technologie spatiale. Et donc, ce qui est très, très important pour les jeunes Africains.
On va redire un mot de votre salon dans quelques minutes. Quand on parle de formation, il faut former non seulement au métier de l'intelligence artificielle pure, mais l'intelligence artificielle, elle a aussi besoin de composants. Il faut nourrir la bête, je dis ça avec des guillemets. Il faut fabriquer des semi-conducteurs en particulier. Ça aussi, c'est l'objet d'une compétition mondiale entre les industriels. Aujourd'hui, les Chinois, les Taïwanais, les Japonais, les Américains... Et les Coréens, chacun essaie de développer sa propre technologie. Comment rendre ces puces intelligentes, presque autant que les humains ? Notre correspondant en Corée du Sud, je vais vous faire réagir à ce reportage, notre correspondant Celio Fioretti a pu se rendre dans un laboratoire spécialisé à Daejeon, c'est au sud de Séoul, dans le centre de la Corée du Sud.
L'une des choses dont je suis le plus fier récemment est le calcul neuromorphique. Le calcul neuromorphique signifie imiter le cerveau humain. Ici, on essaie de recréer un cerveau humain dans un ordinateur.
Pas de science-fiction, tout est bien réel, juste sous nos yeux. Yu Wei-jun est le directeur du centre de recherche sur les semi-conducteurs et nous montre sa dernière création. Une petite plaque dorée sur une carte de circuit électronique, pourtant capable des mêmes prouesses qu'un humain. Dans la ville de Daejeon, à une centaine de kilomètres de Séoul, l'Institut coréen des sciences et techniques avancées nous ouvre exclusivement ses portes pour entrer dans ce qui est d'habitude classé secret industriel. Ici se fabrique l'avenir de l'électronique, comme l'explique son directeur.
Nous avons développé une nouvelle technologie qui intègre la mémoire et les processeurs dans une seule puce. Cela permet à l'ordinateur de calculer beaucoup plus vite et en même temps d'économiser de l'énergie. L'ajout de l'intelligence artificielle décuple les performances de la puce.
Depuis 2022, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a décrété comme priorité nationale la recherche sur ces nouveaux types de semi-conducteurs à base d'intelligence artificielle. Le Dr Yoo travaille depuis près d'une décennie pour donner à la Corée du Sud un avantage stratégique sur ses concurrents.
De nombreuses tentatives ont été faites pour imiter notre technologie. Intel a essayé, IBM a créé des puces incroyables comme les Tronos et l'OI, mais a échoué à les faire fonctionner. Nous sommes les premiers au monde à exécuter des programmes sur un calcul neuromorphique.
Dans ce laboratoire, une centaine d'étudiants-chercheurs travaillent jour et nuit, en témoignent les sacs de couchage au pied des bureaux. Un rythme intense dont les étudiants comme Lee Hong-seok s'accommodent bien, tant les progrès techniques du secteur les font rêver.
Ce qui est bien, c'est qu'actuellement, les secteurs des semi-conducteurs et de l'IA attirent le monde entier. Et faire de la recherche dans ce domaine, c'est faire de ce que l'on pensait être un rêve une réalité. Et c'est ça qui rend mon travail fantastique.
Un rêve qui devient réalité et qui se concrétise dans le commerce de ces petites puces intelligentes, un secteur hautement compétitif où chaque avantage peut représenter des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Monsieur Yoo, le directeur du centre, s'estime confiant quant aux capacités coréennes en la matière.
Nous savons tous que la Corée est numéro un mondial dans le domaine des semi-conducteurs de ce type. Nous avons déjà pris de l'avance sur la technologie des semi-conducteurs. Donc la Corée est bien placée pour diriger le monde dans ce secteur.
Au troisième quart de l'année 2024, l'industriel sud-coréen SK Hynix a réalisé plus de 12 milliards de dollars de profits sur ses puces intelligentes, des petites plaques dorées qui valent bien leur pesant d'or. Salut Fioretti, de retour de Daejeon, RFI.
Tout le monde veut être le numéro 1, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Yaya Silla, là encore, pas mal d'inégalités hein, à l'échelle mondiale. On revient à la fois à ces questions d'infrastructure et puis l'importance de la recherche et donc l'importance de la formation.
Exactement. L'importance, la formation est clé. Et ce que je vois dans ce reportage, c'est ça incite les Africains à faire plus de partenariats. Et c'est ce que nous on fait, on a commencé, on accentue et en Côte d'Ivoire. Et donc, lors du salon, vous allez voir que des entreprises coréennes sont impliquées dans le programme de formation de la robotique et de l'IA dès le préscolaire. Et il faut dire aussi que l'Afrique, c'est là où il y a les terres arabes. Et donc, ce partenariat va permettre justement aux grandes entreprises d'installer des entreprises de semi-conducteurs avancées en termes d'usage appliqué en Afrique, en partenariat gagnant-gagnant. Et là, il faut former les Africains, il faut former les jeunes Africains dans cette technologie-là.
Et puisqu'on parlait des questions de souveraineté, il y a aussi la question des minerais hein, qui sont indispensables pour faire fonctionner tout cet écosystème. Et là encore, l'Afrique a quelque chose que les autres n'ont pas.
Oui, justement. L'Afrique, on voit sur le continent africain les gisements en termes de minerais. Donc, ce qu'il faut, c'est un meilleur contrôle, une meilleure gouvernance et surtout établir des partenariats et sud-sud et à diversifier ces partenariats avec le nord au niveau de la haute technologie. Et donc, par exemple, la Côte d'Ivoire pourrait s'associer avec la Corée sur l'implémentation et la mise en œuvre des semi-conducteurs pour justement appliquer l'usage de l'IA aisément dans le secteur de la santé. Par exemple.
Un grand merci, Yaya Silla, d'être venu ici pour cette émission spéciale à la Bibliothèque nationale de France. Bon vent au SIAD, le Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace, qui se tiendra à Abidjan les 20 et 21 février au nouveau parc des expositions inauguré en 2023, je crois, à Port-Boué, près de l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny. Merci également à Alice Ménard, notre réalisatrice. Merci à toutes les équipes de RFI qui ont installé notre studio à la BNF pour cette journée spéciale IA. Ça continue sur nos antennes et nos applis, les médias, le cinéma, l'histoire, la musique. Et puis, sachez que lundi matin, l'envoyé spécial du président de la République sera notre invité sur RFI. D'ici là, restez connectés. L'actualité revient tout de suite.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.